Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Seconde émission Osons la philosophie, l'approche du visage avec Françoise Gernot. Bonjour,
bonsoir. Bonjour.
Donc, comme d'habitude, deux émissions. Donc, il va falloir résumer pour nos auditeurs qui ont écouté, mais on ne sait jamais, votre première émission.
Oui, eh bien, la première émission, d'abord le titre,
l'approche globale,
visage, oui. L'approche du visage. Pour la première émission, je vous ai proposé de lire un passage tout à fait important, je crois, du sociologue Simmel, sociologue du début du XXe siècle. Il s'agit d'un tout petit essai de quelques pages, essai dans lequel Georges Simmel essaie de résumer en quoi les traits du visage, la composition du visage, dans sa spécificité, peut prêter à la reproduction, au portrait. Avec, évidemment, toute une réflexion sur l'esthétique. L'esthétique du visage, en ce sens où cette esthétique se déploie dans le geste artistique du portrait, qui est relativement tardif. L'art du portrait est relativement tardif. En tout cas, pour nous, dans l'Europe d'après l'Empire romain, mais pour nous. Parce qu'auparavant, nous avons quelques témoignages, et c'est sur ce point que j'avais insisté tout à fait à la fin, sur ce point que j'avais conclu, nous avons des témoignages qui ont survécu au temps, qui sont ce qu'il est convenu d'appeler les portraits du Fayoum. Mmh. C'est-à-dire que dans le delta du Nil, donc, nous trouvons des sarcophages, et au lieu d'avoir la sculpture du visage, nous avons à cette époque, c'est-à-dire dans les premiers siècles de notre ère, mélange peut-être d'hellénisme, de romanité, enfin, nous avons des portraits à l'encaustique, c'est-à-dire qui ressemblent énormément à ce que nous pouvons connaître aujourd'hui, qui figurent des personnages de la vie, pas forcément de hauts personnages, mais des personnages qui ont une certaine
élégance.
On voit, il y a des bijoux, il y a tout de même des coiffures extrêmement sophistiquées. Bon, mais nous voyons tout de même des gens qui ne sont pas de haute noblesse. C'est pas la haute. Hein. Mmh. Voilà. Et ces visages, pour moi, sont extraordinairement émouvants parce que j'ai l'impression d'y reconnaître mes ancêtres, vraiment. Mmh. Et pour notre visualisation, nous avons choisi, c'est pour ça que je demanderai aux auditeurs que cela intéresse de consulter cette vignette. Nous avons en vignette donc un portrait du Fayoum, plutôt un portrait de femme du reste, je crois. Bon, nous en étions à une approche esthétique du visage. Hein. À quelles conditions le visage, quoi du visage, peut être justement l'élément qui donne son schème à une peinture. Bon, la peinture, en particulier, n'est pas simplement un dessin, c'est aussi un jeu assez puissant de couleurs fondamentales qui est tout à fait impressionnant et qui donne un effet de réalité réel. Vraiment un effet de réalité. Hein, nous avons vraiment de la mimétique, de la mimésis dans ces portraits. Alors, l'idée que j'avais, c'est d'opposer ou de contreposer, je ne sais pas comment on dit en italien, de contreposer, sans qu'il y ait d'ailleurs d'opposition violente, une approche esthétique du visage et une approche éthique du visage. Mmh. Voilà. Alors, qu'en est-il de cette approche éthique? Eh bien, elle nous est donnée dans un grand livre majeur du XXe siècle. Ce livre s'appelle « Totalité et infini ». C'est la thèse d'État d'Emmanuel Lévinas. Je dis peut-être quelques mots d'Emmanuel Lévinas.
Oui.
Emmanuel Lévinas, pardon, est né dans l'Empire russe, mais il a son nom d'ailleurs d'origine est lituanienne. Hein, c'est un nom d'origine lituanienne. Il est venu en France assez tôt. En France d'abord à Strasbourg, ensuite en Allemagne et surtout essentiellement à Paris. Donc son œuvre est rédigée en langue française. Bon, ayant relu Lévinas, j'ai continué ces derniers jours, cette dernière semaine, le moins qu'on puisse dire, c'est que son art littéraire, bon, je dirais de type baroque, et parfois il est excessivement difficile, c'est-à-dire le passage de ce style baroque à une conceptualité philosophique qui pourtant existe dans ce livre, est assez délicate. Alors, quel est le thème? Si le thème il y a, hein, parce que la notion de thème est évidemment critiquée, le maître mot de cette pensée d'Emmanuel Lévinas, dans le premier mouvement de sa pensée, bon, il est mort tardivement, hein, il est mort en... attendez, je regarde.
Je crois que c'est 1995.
Oui, c'est ça, 1995. Hein, il est mort à peu près à 90 ans.
Ouais.
Bon. Je traite de quelques passages, justement, de ce premier livre. La pensée de Lévinas a évolué, mais toujours par rapport à ce questionnement tout à fait radical et tout à fait nouveau, je crois, qu'il a sollicité dans la philosophie officielle, la philosophie d'origine grecque, et son champ d'analyse, son champ d'exploration, c'est celui, donc, de la relation à autrui. Et dans cette relation à autrui, qui prescrit l'éthique, joue l'apparition du visage. Un mot sur l'éthique, le mot éthique. Hein, l'éthique désigne précisément le rapport à autrui dans sa justesse et peut-être dans sa justice, par différence avec la morale. Hein. La morale désigne la moralité des mœurs. C'est-à-dire les us et coutumes qu'il est convenu de pratiquer dans une société donnée. Il s'agit de normes morales. Or, justement, l'éthique de Lévinas ignore la norme morale, sinon le principe, qui justement relève de l'éthique plutôt que de la morale, le principe d'une « tu ne tueras pas »,« tu ne tueras point », enfin, comme on dit dans les traductions un peu vieillottes de la Bible hébraïque. Eh bien, le visage, revenons-y, le visage est le maître mot de cette réflexion. Le visage, donc, comme maître mot. Tout commence avec l'apparition du visage. L'apparition du visage d'autrui au sujet que je suis. Lévinas est l'héritier et du reste le diffuseur en France de ce qu'on appelle la pensée phénoménologique qui vient d'Allemagne, en particulier de Husserl. La phénoménologie est une recherche sur la manière dont le sujet que je suis, que vous êtes, hein, la manière dont la subjectivité, dit-on en philosophie, appréhende le monde. Hein. Le sujet vise le monde, par une orientation, par une sorte de geste de transcendance qu'on appelle aussi l'intentionnalité. Donc, qu'en est-il de la relation à autrui portée par ce mouvement donc de la...
C'est pas grave, allez.
Qu'en est-il donc de ce mouvement qui passe de l'intériorité du sujet à l'altérité de l'autre, puisque essentiellement, le visage est présentation et phénoménalisation, enfin apparaître de l'autre. Lévinas emploie même le mot un peu religieux d'épiphanie du visage. Hein. Le visage se présente comme épiphanie, c'est-à-dire comme révélation, comme ouverture.
Mais confirme, vous avez dit que c'était un peu difficile.
Mais toujours dans une transcendance tel que l'autre n'est jamais un autre moi-même. L'autre, pour Lévinas, n'est pas un alter ego. Et en particulier, l'éthique ne se fonde pas sur la sympathie, sur l'empathie. Non. ce qui me caractérise dans ma relation de sujet à l'autre, c'est bien que l'autre est absolument autre. Mmh. Il relève d'une altérité pure. Mmh. Encore une fois, cela suppose un registre de l'éthique qui n'est pas celui, je dirais, des morales du XVIIIe siècle, qui sont des morales, par exemple, de la compassion, oui. Hein, oui. Ou de la pitié. Encore que la notion de pitié peut tout de même filtrer dans les analyses ou les réquisites que Lévinas nous propose pour entretenir, justement, cette relation juste avec autrui. Donc, je reviens sur le thème essentiel, le visage. Le visage, donc, c'est lui qui en appelle à une exigence éthique de ma part, puisque tout se joue de sujet à sujet. Il ne s'agit pas, encore une fois, de la moralité qui a un espace, celui de la collectivité. Il s'agit d'une relation d'abord duel entre le sujet que je suis et l'autre qui n'est pas moi, qui est tout autre. Qui est absolument autre, vers lequel je ne peux tendre que par un mouvement de transcendance, c'est-à-dire un mouvement qui vise l'absolu, l'absoluité de l'autre. Tout va bien ?
C'est en cela. Merci de vous inquiéter, Françoise, mais cela explique peut-être l'émotion qu'on peut ressentir face à un portrait, par exemple, face à un visage.
Il est hors de question de parler de portrait. Nous sommes dans une relation de subjectivité à subjectivité.
D'accord.
Je voudrais, justement, c'est pour ça aussi que j'ai introduit Jean-Christophe Bailly, c'est-à-dire la question du portrait du Fayoum. Hein? Jean-Christophe Bailly a présenté un très beau livre à ce sujet, dont je vous lirai peut-être certains passages. Non, justement, nous verrons comment le portrait, l'image, est au contraire... Une non-approche hein, de la subjectivité d'autrui.
Ah, d'accord.
Enfin, l'image. Alors, les philosophes, j'entendais toute la semaine dernière, ou il y a quelques jours, Didier Burman, c'est vrai que les philosophes ont quelque chose contre l'image, contre la représentation. Alors, j'espère pouvoir, à la fin de mon exposé, revenir sur cette question de l'image. Alors, n'oublions pas que Lévinas, tout de même, Lévinas, c'est deux traditions hébraïques tout à fait constitutives, et il partage avec la tradition hébraïque qu'il connaît parfaitement cette défiance vis-à-vis de l'image, et disons de tout le système représentatif. Parce que, justement, le visage qui se présente à moi ici et maintenant, dans son individualité, sa singularité absolue. Épiphanie du visage.
Sur Radio Alliance Plus, Françoise Gernot, pour cette deuxième émission de l'approche du visage, a choisi comme musique que vous venez d'entendre Michael Levinas, et le fils
d'Emmanuel Levinas. Est le fils de son père, mais aussi de sa mère, musicienne.
Et vous avez choisi donc ce clameur pour orgue.
Clameur pour orgue, oui.
Alors, nous vous écoutons dans la suite de cette analyse d'Emmanuel Levinas.
Oui. Alors, j'en étais à disposer devant nous, si j'ose dire, cette apparition du visage. Or, immédiatement, le visage nous dit, le visage d'autrui, de l'absolument autre, nous dit Levinas, ce visage nous interpelle. Non seulement il nous apparaît, mais il nous interpelle et il nous oblige. Alors, quelle différence y a-t-il entre la visitation du visage et le regard sur un objet? Eh bien, la différence ontologiquement est totale.
Oui.
C'est-à-dire que l'objet peut être un objet de jouissance, l'objet peut être un objet formé par la technique humaine, c'est-à-dire un objet technique. Et là, on a donc jouissance et travail. Ici, il ne s'agit pas du tout de cela. Nous sommes dans un autre registre. Nous ne sommes pas dans le registre de la relation au monde, que ce monde soit donné ou travaillé par la main humaine, comme dirait Heidegger. Non, nous sommes en face d'autrui. Et comment autrui se présente-t-il? Eh bien, il se propose d'abord, d'une certaine manière, comme un obstacle à mon pouvoir, à ma puissance sur lui. Je vous propose une lecture. Vous verrez, ce n'est pas tout à fait commode. Hein. Le visage se refuse à la possession, à mes pouvoirs, à la différence justement des choses hein, ou des objets techniques. Dans son épiphanie, dans l'expression, le sensible encore saisissable se mue en résistance totale à la prise. Donc le visage d'autrui, de l'absolument autre, me résiste. Cette mutation ne se peut que par l'ouverture d'une dimension nouvelle. En effet, la résistance à la prise ne se produit pas comme une résistance insurmontable, comme dureté du rocher, contre lequel l'effort de la main se brise, comme éloignement d'une étoile dans l'immensité de l'espace. Point. L'expression que le visage introduit dans le monde ne défie pas la faiblesse de mes pouvoirs, mais défie mon pouvoir de pouvoir. Annulation de la dynamique du pouvoir. Le visage, encore chose parmi les choses, perce la forme qui cependant le délimite. C'est-à-dire que si évidemment le visage a une forme, cette forme n'est pas le tout, n'est pas la totalité du visage. Ce qui veut dire concrètement, le visage me parle. Donc, dès la vision du visage, il y a une injonction. Et peut-être l'injonction précède-t-elle en droit l'apparition du visage. Alors, je reprends la même phrase. Le visage me parle et par là m'invite à une relation sans commune mesure avec le pouvoir qui s'exerce, fût-il de jouissance ou de connaissance.
Oui, ce que vous disiez sur l'objet.
Oui, jouissance, mais aussi connaissance. C'est-à-dire que la relation à autrui n'est pas fondamentalement une relation de connaissance. C'est donc une relation éthique. C'est donc une relation qui implique dans son intimité, dans son intériorité la plus profonde, la subjectivité que je suis par rapport justement à ce qu'il est l'autre, l'absolument autre. Surgit alors, de manière un peu intempestive du reste, la question de la possibilité du meurtre. Parce que le visage qui s'oppose à moi, la profondeur qui s'ouvre dans cette sensibilité, la sensibilité à un visage qui serait à la fois à la limite de la sainteté, hein, ou peut-être de la caricature, la profondeur qui s'ouvre dans cette sensibilité modifie la nature même du pouvoir qui ne peut dès lors plus prendre, mais peut tuer. Donc, si vous voulez, le visage ne peut pas se saisir, mais le visage peut être anéanti. Le meurtre, plus loin, le meurtre seul prétend à la négation totale. Tuer n'est pas dominer, mais anéantir. Autrui est le seul que je puisse vouloir tuer. J'ouvre une parenthèse. Emmanuel Levinas est contemporain du massacre, de la Shoah, comme on dit aujourd'hui, puisque une grande partie de sa famille qui était restée en Lituanie n'a pas survécu. En revanche, sa femme et sa fille, oui, parce qu'elles ont été toutes les deux abritées dans un chez des moniales. Voilà. Articulons le surgissement du visage, l'appel que présentation du visage m'adresse, avec justement la possibilité du meurtre. Le visage, il m'oppose ainsi non pas une force plus grande, parce que ça, ce serait le duel, si l'on veut, une énergie évaluable et se présentant par conséquent comme si elle faisait partie d'un tout, mais le visage me présente la transcendance même de son être par rapport à ce tout. Non pas un superlatif quelconque de la puissance, mais précisément l'infini de la transcendance. Alors, de quel ordre est-elle, cette opposition à moi du visage d'autrui? Eh bien, elle est de l'ordre, encore une fois, de l'infini, de la transcendance. L'autre est infiniment transcendant, ou l'autre est d'une transcendance infinie. La transcendance, nous savons ce que c'est ce qui dépasse le genre, ce qui dépasse tout. C'est la définition d'ailleurs scolastique. C'est ce qui dépasse le genre, c'est ce qui relève d'une absolue altérité. Cet infini plus fort que le meurtre nous résiste déjà dans son visage. Elle est son visage, elle est l'expression originelle, elle est le premier mot. Tu ne commettras pas de meurtre. Voilà. Donc le visage est à la fois, le visage qui se présente à moi est à la fois, il me dépossède en quelque sorte de ma possibilité d'agir méchamment sur lui, et en même temps, il s'oppose à moi sous la forme, lorsque je le saisis, sous la forme du regard, il s'oppose à moi sous la forme de l'interdit. Alors, c'est évidemment l'interdit biblique majeur. Tu ne commettras pas de meurtre. Je vais peut-être lire la suite. L'infini paralyse le pouvoir par sa résistance infinie au meurtre, qui, dur et insurmontable, lui, dans le visage d'autrui, lui et lui, T, dans le visage d'autrui, dans la nudité totale de ses yeux sans défense, dans la nudité de l'ouverture absolue du transcendant. T majuscule. Bon, c'est une position extrêmement forte. Ouais. Alors, l'appel, c'est bien sûr un appel éthique, un appel au souci de l'autre. Et je relis toujours, l'impossibilité de tuer n'a pas une signification simplement négative et formelle. La relation avec l'infini ou l'idée de l'infini en nous le conditionne positivement. L'infini se présente comme visage dans la résistance éthique qui paralyse mes pouvoirs et se lève dur et absolu du fond des yeux, sans défense, dans sa nudité et sa misère. La compréhension de cette misère et de cette fin instaure la proximité de l'autre. Alors, quelle est la parole éthique, presque d'avant la parole, le dire avant le dit, que formule le visage, la vision du visage, eh bien, ceci relève d'une obligation. Et cette obligation, cette sollicitation, elle concerne sa misère de sa hauteur. L'autre apparaît toujours comme, devant être secouru, devant être à la limite mon hôte. Je reviendrai peut-être sur la question de l'hospitalité qu'a travaillé Jacques Derrida à partir de ces textes. L'autre m'apparaît comme sollicitant de manière tout à fait instante, par son regard, un geste de ma part. Bon, vous allez voir, ce n'est pas très aisé. Je continue.
Je confirme.
toujours le même passage. Se manifester comme visage, c'est s'imposer. Par-delà la forme manifestée purement phénoménale, des expressions du visage, bien sûr, se présenter d'une façon irréductible à la manifestation, comme la droiture même du face-à-face, sans intermédiaire d'aucune image.
Oui, on revient à ce que vous aviez dit.
Voilà. Dans le désir se confondent les mouvements qui vont vers la hauteur et l'humilité d'autrui. je passe quelques temps, et là, c'est un signal à l'actualité. La page suivante, à la page suivante, Emmanuel Lévinas introduit, comme parfois, de manière plus que discrète, une formulation qui émane du Talmud, ici le Talmud du traité Sanhédrin. Je vous lis. « Laisser des hommes sans nourriture est une faute qu'aucune circonstance n'atténue, et à elle ne s'applique pas la distinction du volontaire et de l'involontaire. » Cette parole est de Rabbi Yochanan, donc dans le traité du Sanhédrin, traité talmudique. Alors je dis cela aujourd'hui, puisque aujourd'hui sont libérés, heureusement,
les 20 otages,
d'Israël qui ont survécu, dont nous savons qu'ils ont été affamés, et sont aussi libérés de la guerre, des bombardements et de cet effroyable massacre, anéantissement général, les gens de Gaza. Et nous sommes là encore à une fête, puisque nous allons de fête en fête, nous sommes à la fête aujourd'hui, Simchat Torah, de la réjouissance de la loi. Voilà, c'est tout à fait symbolique. Mais c'était symbolique pour les Israéliens, bien sûr.
Alors, je vais vous demander de conclure, Françoise.
Alors, il faudrait conclure. J'ai souligné ceci, que la présentation de l'autre ne saurait se présenter à travers une image. Bon, alors, entre parenthèses, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que la relation visage, ultérieurement, Lévinas la pense comme accueil et comme hospitalité. Je crois que je l'avais mentionné à propos de Lévinas.
Oui.
Bien. Alors, j'insiste aussi sur cette idée que c'est bien, cette relation à autrui, elle est bien sans l'intermédiaire d'aucune image. Mmh. Et nous avons, à la fin du livre, une interrogation de Lévinas sur justement la peinture et sur la beauté. Sur la beauté du visage et la beauté féminine, parce que la beauté est évidemment l'apanage des femmes, n'est-ce pas ? Sur la beauté féminine, et il y a des phrases très très dures, et elles reviennent souvent dans son œuvre, contre l'art. Il s'agit de l'événement original de la beauté féminine, en ce sens éminent que la beauté prend dans le féminin, mais que l'artiste aura à convertir en grâce sans pesanteur, en taillant dans la matière froide de la couleur, ou de la pierre, ou de la beauté. Cela deviendra le calme, cela deviendra la calme présence, la souveraineté de l'envol, l'existence sans fondement, car sans fondation. Le beau de l'art invertit la beauté du visage féminin. Il substitue à la profondeur troublante de l'avenir que la beauté féminine annonce et cache. Une image. Il présente une forme belle, réduite à elle-même dans l'envol et privée de sa profondeur. Toute œuvre d'art est tableau et statue, immobilisée dans l'instant et dans son retour périodique. Voilà. La beauté devient une forme recouvrant la matière indifférente et non pas recelant du mystère. Vous voyez pourquoi les images, je dis bien les images, les représentations des portraits du Fayoum, contrairement à tout ce que dit Lévinas, là je suis extrêmement critique de Lévinas, hein, nous présente vraiment, je dirais, l'âme de ses défunts. Et les font survivre aussi, et les font survivre par rapport à nous. C'est un hommage extraordinaire à ces personnes qui témoignent véritablement, dans la peinture même, de leur individualité et d'un regard qui nous fascine.
Merci à vous.